Le bal du comte d'Orgel, d'après Raymond Radiguet. Lecture clé en français facile, copyright clé international 2025. Chapitre 1. La rencontre. La comtesse d'Orgel appartenait à la célèbre maison des Grimoards de la Verberie. Le roi Louis XIII voulait affaiblir le pouvoir des nobles. Le chef de la maison des Grimoards de l'époque, furieux, avait quitté la France. Les Grimoards s'étaient installés à la Martinique. Les Grimoards étaient devenus très connus. Quand on arrivait sur l'île, on allait les voir. C'est ce qu'avait fait Gaspard Taché de la Pagerie, un lointain cousin. Le mariage d'un Grimoard avec une demoiselle Taché avait resserré les liens entre les deux familles. Les années avaient passé. Un jour, la jeune Marie-Joseph Taché était partie pour la France et s'était mariée avec un Beauharnais. Puis, Joséphine avait quitté son mari. Un scandale. Les Grimoards avaient continué à lui parler. Elle leur avait appris qu'il y avait la Révolution en France et qu'on coupait la tête des nobles. De leur île, les Grimoards avaient observé la France. Cette révolution les amusait. Quoi de plus drôle, par exemple, que le remariage de leur petite cousine Joséphine avec un général Bonaparte. Ils n'avaient plus ri quand l'Empire était arrivé. Tout le monde pouvait avoir un titre de noblesse. Mao, à sa naissance, avait été accueilli sans enthousiasme. Madame Grimoard attendait un autre enfant et espérait un garçon, lorsqu'un cataclysme avait détruit la ville de Saint-Pierre. L'île lui inspirait désormais de l'horreur. Elle refusait d'y rester. Les Grimoards étaient donc partis pour la France en 1902. Le domaine de la Verberie était à vendre. Le marquis l'avait acheté. Madame Grimoard avait donné le jour à un garçon mort-né. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Mao, cette petite fille si pleine de vie, la dérangeait. Mao grandissait comme une plante sauvage. Elle trouvait de la tendresse auprès de la vieille servante noire Marie. À 18 ans, elle avait épousé le comte Anne d'Orgel, un assez beau nom. Elle aimait follement son mari, qui en retour lui témoignait une très grande amitié qu'il prenait pour de l'amour. Marie trouvait le comte d'Orgel trop vieux, mais elle était entrée chez les d'Orgel pour rester avec la comtesse. Le comte Anne d'Orgel avait 30 ans. Avec l'aide de Mao, il avait redonné de l'éclat à la maison des Orgel qui se trouvait à Paris. Parmi les gens qu'il recevait, il y avait Paul Robin, un jeune diplomate. Pour lui, c'était une chance d'être reçu dans certaines maisons. Et la plus grande chance était d'aller chez les Orgel. Son meilleur ami était François de Sérieuse, à qui il reprochait secrètement de ne pas profiter de sa particule. Paul fréquentait plusieurs personnes, mais il ne mélangeait pas les gens et était secret. « Je dîne chez des gens », répondait-il quand François l'interrogeait sur sa soirée. François Sérieuse, lui, était très insouciant. Il avait 20 ans. Malgré son âge et son oisiveté, les gens l'aimaient bien. Le samedi 7 février 1920, les deux amis sont au cirque Medrano. Le spectacle commence. Paul cherche des visages qu'il connaît dans le public. Un couple entre. L'homme, avec son gant, fait un petit bonjour à Paul. « C'est bien le comte d'Orgel ?» demande François. « Oui, » répond Paul, assez fier. « Avec qui est-il ? Sa femme ? Oui, c'est Mao d'Orgel. » À l'entracte, Paul file comme un voleur à la recherche des Orgel, qu'il souhaite voir, seul. Sérieuse, lui, pousse la porte des clowns Fratellini. Pour rien au monde, monsieur et madame d'Orgel n'auraient pas été dire bonjour aux clowns. Quand le comte voit entrer Sérieuse, il le reconnaît aussitôt. Il reconnaissait tout le monde, même s'il ne l'avait vu qu'une fois. Il se tourne vers sa femme. « Monsieur de Sérieuse ne semble pas nous connaître aussi bien que nous le connaissons. » Mao n'avait jamais entendu ce nom, mais elle connaissait les manèges de son mari. « J'ai souvent demandé à Robin d'organiser quelque chose, » dit le comte à François. « Je le soupçonne de ne pas vous en avoir parlé. » Venant de voir François avec Paul, dont il connaissait les habitudes, il mentait comme l'amabilité sait mentir. Tous les trois rient des cachotteries de Robin. On décide de se moquer de lui. Anne Dorgel et François vont lui faire croire qu'ils se connaissent depuis longtemps. Anne Dorgel emmène François visiter l'écurie du cirque. De temps en temps, quand il sentait qu'elle ne pouvait pas le voir, François jetait un coup d'œil sur Madame Dorgel. Il la trouvait belle, méprisante et distraite. Distraite, elle l'était. Rien ne pouvait la distraire de son amour pour son mari. Une sonnette annonce la fin de l'entracte. François pense avec mélancolie qu'il doit se séparer des Orgel et retrouver Paul. Mais Anne propose de changer quelqu'un de place pour rester ensemble. La plaisanterie sera encore plus drôle. Anne dit un mot à l'ouvreuse et cette dernière déplace deux spectateurs. Mécontent d'avoir manqué les Orgel, Paul grognait contre François à cause de son retard. Quand il voit le trio, il n'en croit pas ses yeux. Quand ils sortent du cirque, Anne Dorgel dit à François « Vous venez avec nous au dancing de Robinson !» Sa femme le regarde avec surprise. On ne pouvait être qu'à trois dans la voiture des Orgel. Paul, qui ne veut pas manquer une fête, monte à côté du chauffeur. Ce geste signifiait qu'il connaissait si bien les Orgel qu'il pouvait prendre la plus mauvaise place. François s'assoit entre les époux. « Êtes-vous déjà allé à Robinson ?» demande Mao. François de Sérieuse avait souvent entendu parler de ce village par de vieilles personnes amies de sa famille. Mais les Forbach lui avaient parlé du Robinson de leur jeunesse. Et François imaginait un lieu champêtre où de très vieilles gens se promenaient sur des ânes. Mais l'année qui a suivi la fin de la Première Guerre mondiale, on a commencé à aller danser en banlieue parisienne, par exemple à Robinson. La voiture s'arrête. Sommes-nous arrivés ? Demande François, qui ne connaît pas la route. On n'était qu'à la porte d'Orléans. Des automobiles attendaient de repartir, la foule les regardait. Depuis qu'on dansait à Robinson, les braves gens de Montrouge venaient admirer le beau monde à la porte d'Orléans. Les gens collaient leur nez contre les vitres des véhicules pour bien voir les propriétaires. Ce soir-là, il y avait foule. Anne Dorgel se penche à la fenêtre de sa voiture.
« C'est Hortense !» dit-il à Mao. « Sa voiture est en panne !»
Sous un bec de gaz, en robe du soir, une couronne sur la tête, la princesse d'Austerlitz dirigeait les travaux de son mécanicien, riait, parlait à la foule. Elle était avec une Américaine, Mrs. Wayne. La princesse d'Austerlitz est magnifique. Arrière-petite-fille d'un maréchal de l'Empire, elle avait épousé le descendant d'un autre maréchal. Tout le monde l'appelait Hortense. Elle était l'amie de tout le monde, car elle était la bonté même. Mais à cause de la liberté de ses mœurs, certaines maisons ne l'aimaient pas. François connaissait Hortense et l'appréciait. Dans la foule, seul un grand bonhomme ne montre pas de sympathie envers la princesse. Mais les murmures de la foule lui font comprendre qu'il ne doit pas insister. Il critique alors le mécanicien. La princesse lui crie
« Dis donc, fainéant !» « Si tu nous aidais, au lieu de critiquer !»
La foule applaudit la princesse. Le grand bonhomme traverse la foule, se glisse sous l'auto et la répare rapidement.
« Donnez donc un verre de Porto à monsieur !»
dit Hortense au mécanicien. On sort du coffre de la voiture une bouteille et des verres. La foule applaudit.
« Allons, hop, en route »
crie-t-elle. Les voitures repartent. L'auto des Orgel entre dans la cour du dancing, derrière la voiture de la princesse. Un homme ouvre la porte et court au devant de la princesse. La musique joue. François de Sérieuse aimait ce bruit qui lui permettait de se taire. Il se tourne vers Madame Dorgel sans penser qu'il lui sourit.
Mirza ! Voici Mirza !
S'écrie la princesse. En effet, un persan, cousin du chat, que l'on appelle Mirza, arrivait. Mirza n'avait pas de harem et son unique femme était morte. Il collectionnait les automobiles et adorait la politique. On trouvait qu'il avait le sens du plaisir. Pourquoi ? Parce que si un endroit était triste, Mirza s'en allait. Mirza appréciait François de Sérieuse. François aussi. Son arrivée secoue les gens.
Personne n'avait pensé à danser. On danse. François de Sérieuse ne dansait pas. Il regrettait de ne pouvoir étreindre Madame d'Orgel. Un couple qui danse montre son degré d'entente. L'harmonie des gestes du comte et de la comtesse d'Orgel montrait un accord que donne l'amour ou l'habitude. François voyait en face de lui un couple tendrement uni. Cette union lui faisait plaisir. Il éprouvait un sentiment différent de ceux dont il avait l'habitude. Chez lui, la jalousie précédait l'amour. Pas aujourd'hui. François avait autant de plaisir à voir Madame d'Orgel danser avec son mari que s'il avait dansé avec elle. Il les regardait, ne répondant pas à Esther Wayne. Pour se reposer de la danse, le comte préparait des mélanges de boissons qui tenaient plus de la sorcellerie que de l'art du barman. Mrs. Wayne s'était assise à côté de François. Il aurait préféré être seul. Reprenant le mot « sorcellerie » prononcé par quelqu'un après les mélanges d'Anne d'Orgel, Mrs. Wayne parle à François du filtre d'amour bu par Tristan et Iseult, dans l'espoir de lui faire comprendre qu'il lui plaît. François de Sérieuse se réveille. Que racontait-elle ? « Il faudra que je fasse votre buste, » dit-elle après un silence. « Vous sculptez ?» demande François qui écoute à moitié. Pensait-elle faire suivre ses séances de sculpture par d'autres séances ? Esther Wayne demande un crayon et montre à François comment, avec deux huit dessinées côte à côte, on obtient deux cœurs renversés. L'orchestre arrête de jouer. Madame d'Orgel s'assoit à côté de François. Elle voit les deux cœurs dessinés sur la nappe. Elle lève des yeux interrogateurs. « Mrs. Wayne me montre un de ses tours de magie, » dit François. Quand Mao comprend que ses cœurs sont formés de chiffres, elle trouve l'idée charmante et pense « Cette danse m'a fait perdre la tête. Comment ai-je pu croire que ce jeune homme dessinait des cœurs ?» Puis elle sort un miroir de son sac et se regarde. Sans doute voit-elle une heure tardive sur son visage, car elle se lève. Il est temps de partir. « Vous devez être serré, » dit Esther Wayne à Madame d'Orgel. « Hortense et moi pouvons prendre quelqu'un avec nous. » Son regard vers François montrait qu'elle préférerait que François monte avec elle et non Paul. Paul fait un rapide calcul. Fallait-il laisser son ami seul avec les Orgel ou avec Mrs. Wayne ? Il était fâché de ce qui s'est passé au cirque. Il croit se venger et ennuyer son ami en prenant sa place dans la voiture d'Hortense. Il le sauve. Dans la voiture, Anne d'Orgel dit à François « De quoi avez-vous bien pu parler avec Esther Wayne ?» François était étonné de cette question. Mais il était content, car la question du comte lui permet de s'expliquer devant Mao. « C'est simple, j'étais le seul à ne pas danser, et elle m'a tenu compagnie. » « C'est vrai, » dit Anne à sa femme. « Ce pauvre, nous l'emmenons à Robinson et il ne danse pas. » François ne répond rien. Il n'avait pas dansé, mais il avait bu le filtre d'amour. « Pourquoi ne viendriez-vous pas déjeuner bientôt ?» dit le comte. « Après-demain, par exemple. » Le surlendemain, François n'était pas libre. « Demain, alors !» François accepte. Ce mouvement spontané lui gagne le cœur du comte.